Avant de nous tourner vers le psaume 59, je me permets de vous remercier pour vos prières pour l'Institut public. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce qu'il y a 10 nouveaux étudiants à temps plein qui sont prévus à ce stade, en tout cas pour la rentrée, comme Steve l'a mentionné, prévu pour demain en 8, lundi 7 septembre. 5 qui viennent de France, 4 de Belgique et 1 britannique. Et merci de prier pour que toute la logistique se mette aisément en place compte tenu des circonstances sanitaires que nous vivons. Il y a la nouvelle version donc, du calendrier de prière pour le mois de septembre qui est disponible sur le site de l'Institut. Et s'agissant du site de l'Institut où vous pouvez avoir accès à ce magazine, profitez, ce n'est pas trop tard, profitez des séries de cours qui sont à votre disposition, que ce soit en semaine ou le samedi. Par exemple, est-ce que vous êtes capable d'expliquer pourquoi nous pensons que la Bible, pourquoi nous sommes persuadés, nous savons que la Bible est la parole de Dieu? Sinon, rendez-vous samedi prochain à l'Institut à 9h30. Et puis d'autres séries de cours aussi qui pourraient bien vous intéresser. C'est une triste réalité que nous, croyant en Jésus-Christ, nous continuons à pécher. Mais cela nous arrive de souffrir injustement, sans lien avec les péchés. Ça nous arrive d'être insultés pour le nom du Christ. Cela nous arrive d'être rejetés parce que nous sommes chrétiens. Là où nous sommes maltraités, nous sommes innocents. Je pense à une jeune femme qui déteste ce que la Bible affirme concernant le mariage et qui est virulente dans ses propos envers des personnes comme nous. Je pense à de nombreux croyants qui ont perdu leur travail du fait de ne pas cacher leur foi en Jésus. Je pense à un jeune croyant fidèle qui a été traité récemment d'arriéré après avoir exposé l'Évangile. Je pense à une étudiante dans un institut public ici en Europe francophone qui a dû se présenter au tribunal pour défendre la légitimité de ses études, cela dans le cadre d'un contentieux familial. Je pense à une jeune convertie en France dont l'ex-mari interdit à leur fils d'aller à l'église. Et du coup, elle aussi est souvent privée d'aller à l'église. Je pense à une dame croyante qui est en but jour après jour à des actes injustes commis par son mari non-croyant. Si nous voulons faire des disciples cette année académique, nous pouvons nous attendre à une intensification du combat spirituel. Cela se manifestera sans doute au travers de personnes qui ne nous apprécient pas. Mais le psaume 59 nous permettra de réagir de façon saine. Voici l'essentiel. Délivre-moi. Eux grondent. Mais toi, tu ris. Et moi, je chante. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te louons de ce que toute écriture provient de toi et portée sur ton souffle et nous est utile. Merci en particulier de ce que ta parole nous équipe de façon pratique afin que nous puissions te glorifier lorsque nous faisons face à l'opposition. Instruis-nous maintenant. Fortifie-nous, réjouis notre cœur, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. David est innocent. Qu'est-ce qu'il a fait de mal à l'encontre de Saül? Le premier verset permet de situer le moment en question dans la vie de David, rapporté pour nous en 1 Samuel 19. David a remporté une victoire remarquable face au géant Goliath. Et par conséquent, la nation n'est pas asservie aux Philistins. Le roi Saül manifeste donc sa reconnaissance envers David. Oh non, en fait, Saül ne digère pas la popularité de David. Il est jaloux de David. Il essaie de tuer David. Il essaie à maintes reprises. Le titre de notre psaume reflète l'un de ces moments. Vous voyez la fin du verset premier. Lorsque Saül envoya cerner sa maison pour le faire mourir. Écoutez ces propos du fils de Saül, Jonathan. Je lis dans 1 Samuel 19. Jonathan parla en bien de David à son père Saül. Il dit que le roi ne commette pas de péché envers son serviteur David, car il n'en a pas commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a risqué sa vie. Il a tué le Philistin. Et l'Éternel a accompli une grande délivrance pour tout Israël. Tu as vu cela et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu mourir David sans raison? Et donc, Saül s'engage par serment à ne pas mettre David à mort, mais dans la pratique, il continue quand même à attenter à la vie de David. Je continue à lire dans 1 Samuel 19, le verset 11. Saül envoya des hommes à la maison de David pour le surveiller et le faire mourir au matin. La vie même de David est en danger malgré son innocence. Et donc, il supplie Dieu de le délivrer. Psaume 59, verset 2. « Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice et sauve-moi des hommes sanguinaires, car les voici aux aguets pour m'enlever la vie. Les hommes puissants complotent contre moi sans que je sois coupable, sans que j'ai péché, Éternel. Malgré mon innocence, ils accourent, prêts à m'attaquer. Réveille-toi, viens vers moi et regarde. » Cet acharnement à l'encontre d'un homme innocent, cela vous rappelle quelque chose? Acharnement à l'encontre d'un fils de David? Parfaitement innocent. Écoutez Pilate qui parle de Jésus. « Je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. » Écoutez le brigand sur la croix, crucifié à côté de Jésus, qui parle là maintenant de Jésus. « Celui-ci n'a rien fait de mal. » Écoutez Jésus lui-même qui parle de lui-même. « Ils m'ont haï sans raison. » Et c'est en effet à bon escient que nous approfondissons ainsi la perspective. On ne peut pas rester simplement avec le constat que David avait des ennemis, car l'opposition chez Saül est spirituellement profonde. Nous lisons dans 1 Samuel 19 que Saül est habité par un mauvais esprit. Il s'agit du combat spirituel contre Dieu, finalement. Il nous faut également élargir la perspective. Vous voyez le verset 6. « Toi, Éternel, Dieu de l'univers, Dieu d'Israël, lève-toi pour corriger toutes les nations. » David prie Dieu de corriger toutes les nations. David est celui qui est désigné roi par Dieu et toute opposition vis-à-vis de David correspond à l'opposition vis-à-vis de Dieu. Et dans un sens plus profond, Jésus est celui qui est désigné roi par Dieu et toute opposition vis-à-vis de Jésus correspond à de l'opposition vis-à-vis de Dieu. Et on trouve cette opposition à cette époque-là, comme aujourd'hui, chez des personnes issues de toutes les nations. Dans notre Église, nous soutenons l'organisme Portes Ouvertes qui sert les chrétiens persécutés de par le monde. Je vous invite à visionner le début de cette vidéo qui concerne l'hostilité vis-à-vis de nos frères et sœurs.
So far, banka uta akan gidajen ne kore sun kore ku kafin sun zo sun fa.
Dan muna zaune a nan, ga wurin zaune mu yara suna kwance. Sai mun ji kawar ratatatata. Sai mun bi mun tashi yara sun zo mun shiga daji. Sai mun haye ratin nan mun ga wuta kawai. Ya riga ya kama gidaje ko yana ce. Suna gama nan mun ji fulani ka su so ma haha bi mu sa fuka shi ko ko ne mamu kama ta ki suna ko ne mamu gidaje mu. Mun gudu mun je mun kwana daji gaggawa ki mu suna war su suna kasa.
L'opposition que nous connaissons en Europe francophone n'est pas sous cette forme, mais se manifeste par le refus de permettre à un groupe chrétien de louer une salle pour un événement chrétien, par le rejet ou l'antagonisme de la part d'un voisin, par des menaces, par la discrimination, par les demi-vérités propagées par les médias. Dans mon expérience, des personnes se disant croyantes même s'opposent souvent à des ouvriers de l'Évangile. Mais il arrive que quelques années plus tard, ces mêmes personnes se tournent nettement le dos au christianisme en reniant leur foi. Il se révèle que ce n'étaient pas des vrais croyants au départ. Quelle que soit la forme de l'opposition, au fond, notre ennemi n'est pas la chair et le sang, mais les autorités, les puissances, les souverains du monde des ténèbres, les esprits du mal dans les lieux célestes. Il s'agit fondamentalement de l'opposition vis-à-vis de Dieu, du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et chaque croyant est concerné par le combat spirituel. Et donc le moment venu, nous nous tournons vers Dieu et nous crions « Délivre-moi !» Si nous sommes engagés pour promouvoir la gloire de Dieu, pour construire l'Église, pour annoncer l'Évangile, le combat spirituel sera constant. Mais alors, quel privilège de pouvoir prier constamment Dieu. Écoutez le pasteur John Piper. Nous ne pouvons pas savoir à quoi sert la prière tant que nous n'avons pas compris que la vie est un combat. Et parfois, le combat implique avoir peur, comme pour David. Vous voyez l'image qu'il utilise au verset 7. Nous sommes au début de la deuxième partie du psaume. Le verset 7 et le verset 8 sont la première occurrence d'un refrain. De tels propos vont donc revenir. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville, de la bouche, ils font jaillir l'injure. Leurs paroles sont des épées. Ils disent, qui est-ce qui entend? Arrêtons-nous sur cette image du hurlement ou du grondement. J'imagine que beaucoup d'entre nous savent ce que ça donne de nous trouver face à un chien qui gronde, et ça nous fait franchement peur. On peut être en train de faire du footing dans un parc et le rythme cardiaque est déjà élevé et augmente encore plus, et on est à la recherche du propriétaire du chien, on espère qu'il est là, on espère qu'il saura bien maîtriser le chien. Merci de ne pas avoir en tête ici un animal domestique ou de compagnie fort sympa. Myriam, Clara et moi, nous avons visionné avant-hier soir le film Beethoven. dont le héros, je vois, j'essaie de voir s'il y a des personnes, oui, quelques personnes qui se souviennent de ce film, le héros est un Saint Bernard merveilleusement mignon, câlin, affectueux, et évacuons tout cela de notre esprit, et ayons en tête des molosses hargneux, ou des chiens sauvages qui vivent en meute à la périphérie des villes, ils errent ça et là, ils font le tour de la ville, ils ont faim, écoutons le grondement. La semaine la plus importante pour nous à l'Institut biblique, c'est la semaine d'évangélisation. En règle générale, j'accompagne une équipe en France. Je pense que la dernière fois où j'ai servi en Belgique pour notre semaine d'évangélisation, c'était en 2009 et c'était en collaboration avec cette église, notre église ici. Et je me souviens du grondement qu'a représenté le flot de lettres et d'emails que j'ai reçus à l'époque de la part de personnes qui n'appréciaient pas mon ministère. Je ne dis pas que j'ai été à tous égards sans reproche, mais je dis bel et bien qu'il y a eu une intensité d'opposition qui a coïncidé avec cette semaine d'évangélisation, y compris une nouvelle extrêmement perturbante qui est tombée juste avant que j'annonce l'évangile ici même dans le cadre d'un souper d'évangélisation. Et c'était très difficile. Et année après année, mes collègues et moi, nous le constatons. Juste avant la semaine d'évangélisation et juste après la semaine d'évangélisation, il y a des développements spirituellement néfastes pour l'Institut. La façon de décrire cette opposition qu'on trouve dans ce psaume, qui convient très bien à mon expérience à ce niveau-là, c'est au moyen de cette image, un grondement menaçant. Mais alors, quelle est la réaction de Dieu face à l'opposition? On ne s'y attend peut-être pas, mais le verset 9 nous fournit la réponse. Il rit. Il se rit des adversaires. Il se moque de qui à la fin du verset 9? De toutes les nations. Vous voyez que dans la perspective du psaume, on ne peut pas simplement se contenter de considérer le cas de David face à Saül. Des principes plus larges sont en jeu. Pourquoi est-ce que Dieu rit face à l'opposition? Le psaume 2 permet de répondre. C'est parce que c'est absurde. S'opposer à Dieu est par définition voué à l'échec. Ce que Dieu décide est ce qui se passe. Que l'on accepte ou non, Dieu est Dieu. Pensez aux dégâts occasionnés cette semaine par l'ouragan Laura aux États-Unis. Ça a été dur pour les habitants de la Louisiane. Avec des vents de près de 240 km/h, on ne s'attend pas à ce que quelque chose qui se trouve sur son passage puisse résister. Les tentatives de Saül de contrer le roi désigné par Dieu étaient risibles. Qui peut s'opposer à Dieu? Inversement, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Les desseins de Dieu prévalent et il sauvera ses élus. Il triomphera sur les nations parce que son oint, son fils, son roi, son Messie a déjà remporté la victoire il y a 2000 ans lorsqu'il est mort sur la croix. Toute personne de toute nation qui s'oppose à Dieu sera jugée par ce même roi lors du jour du jugement. Et donc ce psaume comporte un avertissement quant à la destruction des personnes qui s'opposent à Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore en règle avec Dieu, c'est maintenant le moment de cesser d'être son ennemi. Jésus-Christ, le roi instauré par Dieu est revenu de la mort et règne aujourd'hui, que l'on l'accepte ou non. Et il reviendra pour juger ce monde. Et il est impératif que chacun d'entre nous se mette à l'abri du jugement à venir. Et c'est possible. Parce que Jésus-Christ est le fils de David, parfaitement innocent et donc parfaitement qualifié pour mourir à notre place. Et lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a assumé la punition que nos fautes entraînent, si tant est que nous reconnaissions que Jésus-Christ est le roi de l'univers et que nous nous confions en lui. Et à ce moment-là, nous pourrons dire, fin du verset 10, que Dieu est notre forteresse ou notre citadelle. Nous sommes sains et saufs face à la menace de la destruction. Mais attention, ça ne veut pas dire que nous soyons physiquement protégés de tout mal, de tout accident, de virus néfaste. David, lui, pouvait se savoir physiquement protégé face à Saül parce que Dieu allait établir sa royauté à la place de celle de Saül. Pour nous, ce n'est pas pareil. Ce qui nous est promis, c'est que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Notre salut ultime est assuré. Steve nous a fait part il y a quelques semaines du décès tragique du pasteur Edward Nelson à la suite d'un accident d'alpinisme. Son épouse, Laura, doit être profondément éprouvée en ce moment. Mais elle témoigne de ce que Dieu est souverain et de ce que Dieu est bon. Et elle a compris qu'il n'y avait pas de promesse comme quoi Édouard allait vivre jusqu'à l'âge de 80 ans. Mais le salut ultime d'Édouard est assuré. Et il est maintenant avec Christ en attendant le jour du jugement. Bref, veillons à appliquer le psaume de façon à tenir compte des distinctions entre l'époque de David et la nôtre. C'est pareil pour les versets 12 à 14, où David demande à Dieu de détruire ses ennemis. Cette demande cadre avec l'ancienne alliance, dont les dispositions ne sont pas celles qui régentent notre relation avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez écouté le discours de Donald Trump lors de la convention républicaine aux États-Unis. Je sais, moi non plus, je ne dispose pas de 70 minutes juste comme ça pour écouter un tel discours. Mais j'ai vu quelques extraits. Écoutez ceci. Notre pays est béni de Dieu et occupe une place particulière dans ce monde. Je sais que ce n'est pas uniquement Donald Trump qui tiendrait ce type de propos par rapport aux États-Unis. Mais ce genre de discours comporte trois difficultés. Cette déclaration aurait été vraie pour la nation d'Israël en cas d'obéissance à une époque révolue, dans le cadre de l'ancienne alliance. Ce n'est pas uniquement aux États-Unis qu'on trouve ce type de confusion entre l'Israël de l'ancienne alliance et un pays contemporain. Dans l'hymne national britannique, on parle des ennemis de la reine, je cite, « disperse ses ennemis et fais-les chuter ». Cela s'inspire apparemment du verset 12 de notre psaume. Mais la reine d'Angleterre n'est ni David, ni le nouveau David, le Messie. Et dans la nouvelle alliance, des croyants individuels qui sont face à l'opposition injuste ne prient pas pour la destruction de leurs ennemis, mais pour leur bénédiction. Je vous renvoie à Matthieu 5 ou à Luc 6. Notre modèle face à la souffrance injuste c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a prié pour le pardon de ses adversaires. Permettez-moi de lire 1 Pierre 2, les versets 21 à 23. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Mais de nouveau dans notre psaume, tout à la fin du verset 14, nous rejoignons directement David. Nous prions nous aussi afin que, ultimement, la justice soit faite et cela afin que la réputation de Dieu soit établie de par le monde. Nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et vous voyez donc, fin du verset 14, qu'il s'agit bel et bien de sa réputation internationale. Jusqu'aux extrémités de la terre. Fin du verset 14. Face au grondement injuste du combat spirituel, Dieu rit. Et c'est l'occasion pour nous de prier afin que Dieu établisse sa réputation globale. C'est aussi l'occasion de chanter. C'est ce que nous observons dans la dernière partie du psaume. Je sais que chanter est plus difficile avec le masque en tant que de COVID-19, etc. Mais il me semble que David le faisait ici, seul, en privé. Et il me semble que nous pouvons le faire, chacun individuellement, seul, chez nous, dans le cadre de notre relation avec Dieu. Ce à quoi nous avons affaire dans les versets 15 à 18, cette dernière partie, ce sont deux refrains qui reviennent, mais avec des différences. Dans les versets 15 à 16, nous rencontrons à nouveau les chiens qui rôdent les ennemis. Mais là, nous lisons qu'ils passent la nuit sans être rassasiés. David reste sain et sauf, car Dieu est pour lui une citadelle. Et puis, autre refrain, le verset 18, correspond au verset 10, mais là encore avec une différence. Maintenant, au lieu d'espérer en Dieu, verset 10, il chante pour lui. Et c'est souligné. Verset 17, « Quant à moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une forteresse, un refuge, quand je suis dans la détresse. Toi qui es ma force, c'est pour toi que je veux chanter, car Dieu, mon Dieu si bon, est ma forteresse. » Nous chantons pour Dieu, parce que Dieu est notre citadelle. Et à chaque fois où nous passons devant Namur, nous transitons en train par Namur, nous nous disons, pourquoi est-ce que même après 14 ans dans le pays, on n'a toujours pas visité la citadelle de Namur? Mais bon, pour comprendre la notion de citadelle, c'est pas dramatique, parce que même à partir du train, on peut comprendre ce que ça aurait donné. Cette colline, les murailles en hauteur, ça doit avoir été difficile pour un ennemi de prendre cette ville. Chez nous, pas difficile, mais impossible En Jésus-Christ, nous sommes à l'abri, point à la ligne. Mais je me demande si nous ne devrions pas comprendre que Dieu est notre citadelle aussi, dans le sens de nous protéger face à la tentation de péché. Or, dans le combat spirituel, il y a le danger accru que nous tombions dans le péché, que nous cédions à des tentations, que nous commencions à agir comme s'il nous appartenait, d'exercer la vengeance, de faire justice. Et il est important qu'on n'oublie pas le début du psaume. Si nous devions être les victimes d'injustice, que nous ne devenions pas nous-mêmes injustes en cours de route. Ce n'est peut-être qu'une application secondaire de cette image, la citadelle, mais je sais pour ma part que je dois me tourner vers Dieu pour qu'il m'accorde les forces me permettant de rester pur lorsque je suis dans le combat. Et dans le Notre Père, nous prions Dieu de ne pas nous laisser exposer à une épreuve qui donnerait lieu à une chute morale. Seul notre Père, notre citadelle, peut nous préserver d'une telle chute. Je cite à nouveau 1 Pierre 2. Verset 19. C'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Soyons donc vigilants. Dieu promet de ne pas nous tenter au-delà de nos forces. Trouvons en lui notre haute sécurité. Du fait de mon travail, je suis assez souvent face à des circonstances qui appellent une mise en pratique de ce psaume. Et par la providence de Dieu, ou sa sagesse, son humour, je ne sais pas trop, ça a été le cas pour moi cette semaine. J'avoue que j'ai été tendu et à cran pendant plusieurs jours. J'ai prié pour la délivrance. Ce psaume m'a incité à prier afin que Dieu établisse sa réputation au plan global. J'ai prié Dieu de bénir les adversaires et j'ai supplié Dieu de me garder des preuves qui provoqueraient chez moi une chute. Il m'a fallu un peu de temps avant d'arriver au stade où je voulais chanter face à cette opposition, mais j'avais les clés en main grâce à ce psaume. Savoir que Dieu rit face à des personnes qui s'opposent à sa volonté, a été apaisant pour mon cœur. Et savoir aussi que mon salut n'était pas en danger, mais était précieux. Je loue Dieu pour de nombreux exaucements cette semaine. Je ne voudrais pas devoir passer chaque semaine par les étapes de ce psaume, mais je dois être prêt à cela. Et vous aussi. Dans le combat spirituel, face à des actions injustes, à des paroles injurieuses et fausses, à l'hostilité sous diverses formes, comment dois-je réagir? Délivre-moi! Gronde! Mais toi, tu ris. Et moi, je chante, car toi tu es ma citadelle.